Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Dose de France. Je suis Johan Collot, ancien caviste spécialisé en spiritueux dans de grandes caves parisiennes et ancien sommelier dans plusieurs grandes brasseries chics de la capitale. Aujourd'hui, je suis le fondateur de la page Instagram Dose de France, ainsi que du site internet demichelot.com dédié aux apéritifs et spiritueux français. Sur ce site, vous y retrouverez les deux marques que j'ai créées. La première, Demichelot, des liqueurs de plantes inspirées de recettes traditionnelles françaises, souvent tombées dans l'oubli. Verveine, Genépi et bien d'autres. La seconde, Maquisard, ma marque d'embouteillage indépendante, qui sélectionne le meilleur des distilleries françaises pour vous le proposer avec une transparence et une traçabilité irréprochables. Vous y découvrirez également une sélection d'alcools issus de distilleries françaises artisanales, certaines perpétuant leur savoir-faire depuis plusieurs générations. Si vous recherchez des boissons artisanales, authentiques et de qualité, rendez-vous sur demichelot.com. Et bien sûr, rappel essentiel, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Bonjour à tous les amis et bienvenue dans ce 16e épisode du podcast. Très heureux de vous retrouver, 16 semaines de suite, je tiens la longévité jusqu'à un chiffre symbolique pour moi, puisque le 16, c'est un peu mon chiffre porte-bonheur, voilà, faut le dire. Et donc très content d'être là depuis 16 semaines de suite maintenant. Et vous allez voir aujourd'hui, on va un peu changer le podcast. Alors toutes les deux semaines, c'est bien, parce qu'avec moi, toutes les deux semaines, c'est comme mon compte Insta depuis un an. Toutes les deux semaines, hop, je vous annonce un nouveau concept. Et sur Insta, c'est pareil, toutes les deux vidéos, je tente un nouveau concept, parce que je me cherche, je suis un peu perdu, voilà. Pas une ligne éditoriale claire, mais et j'ai beaucoup d'idées qui me traversent l'esprit en me disant « Ah, ça va être cool. » Et en fait, non. Enfin bref, voilà. Comme vous avez peut-être pu le voir en story, j'ai acheté une webcam très bonne qualité pour pouvoir faire des lives. Et je pense que ce que je faisais avant dans mon podcast, donc vous proposer des recommandations de resto, de bouffe, d'alcool et tout, c'est beaucoup plus propice à un live où vous pouvez me voir en direct. Enfin, il y a une vidéo. Alors, je ferai des rediffusions. Je ne sais pas si je les mettrai sur YouTube ou si je ferai un Patreon. J'hésite, peut-être sur YouTube. Et je me suis dit, ça pouvait être un peu plus cool de faire des lives où je vous annonce à l'avance ce qu'on va déguster. Et comme dans mon projet de réenracinement et de volonté de découvrir ce que je ne connais pas de la France en matière gastronomique, culinaire ou même plein d'autres choses, puisque ce qui est bien en live, c'est que je peux vous partager une page internet sur mon ordi et qu'on regarde des trucs ensemble, je me suis dit, on va faire des lives réenracinement régulièrement, peut-être tous les deux semaines, quelque chose comme ça, et proposer cette structure de recommandation, de dégustation à ces moments-là où je dégusterai en même temps que vous en live. Voilà, tout le concept. Et laisser du coup le podcast, qui est quelque chose d'uniquement oral, enfin qui s'écoute, quoi, pour raconter plutôt des histoires, des événements historiques, des anecdotes autour du milieu de l'alcool, de la gastronomie. Et raconter une petite histoire qui va vous divertir pendant 20, 30, 40 minutes en fonction des histoires que je vais chercher, sur lesquelles j'enquête un peu, que ensuite j'écris moi-même et que j'essaye de vous retranscrire du mieux que possible pour que vous puissiez découvrir quelque chose que vous ne connaissiez pas du milieu de la gastronomie ou de l'alcool, ou même moins des histoires que je ne connaissais pas. Celle que je vais vous raconter aujourd'hui, je l'ai découverte en cherchant des choses à vous raconter. Enfin, j'en avais déjà entendu parler, mais je savais pas exactement de quoi ça parlait, j'avais juste entendu le nom. Voilà, juste j'en profite au début des podcasts pour quand même vous donner 2-3 news sur mon entreprise, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Alors, sur Demichelot, on est en pleine restructuration depuis quelques temps maintenant. Je vous avoue qu'il y a beaucoup de travail dans les coulisses qui ne sont pas très intéressants à montrer. Beaucoup de travail de fond pour préparer la rentrée et Noël. C'est pas la joie de ouf, c'est vraiment galère. J'ai fait face à un nombre de problèmes extrêmement chiants qui ne sont pas tous résolus, même loin de là. Donc je vous avoue que ça m'a pas mal niqué mon année. On partait sur des chiffres qui étaient vraiment très, 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 très bons. On arrive quand même à avoir un joli multiple de notre chiffre d'affaires de l'année dernière. Je crois qu'on est à x2, quelque chose comme ça, x2,5 même. Mais on aurait pu faire beaucoup, beaucoup plus si on n'avait pas eu tous ces problèmes. Mais bon, espérons que ça soit un mal pour un bien, qu'on reparte sur de très bonnes bases et que à partir de la rentrée de septembre, on puisse réenclencher, cravacher et booster la boîte. Voilà, donc c'est pour ça, en ce moment, c'est. Bon, je voulais jamais forcément montrer en story ou quoi, mais c'est beaucoup de galères, donc les nouveautés, c'est un peu compliqué. Mais on bosse quand même sur deux nouvelles recettes de liqueurs de Michelot qui, je l'espère, sortiront. Alors, il y en a une qui est prête. Il y en a une qui est d'ores et déjà prête. Pas faite en production pour l'instant, mais elle est prête. Et il y en a une autre sur laquelle on est encore en train de bosser. Voilà. Donc, espérons que ces deux-là sortiront pour septembre. Franchement, je ne vous le garantis pas. Je préfère pas m'engager pour le moment. Mais espérons. Voilà. Et si jamais vous voulez me soutenir, hein, demichelot.com, vous connaissez le chemin. Les amis, pour l'histoire du jour, je vais vous parler de ce qu'on appelle le jugement de Paris. Alors j'ai écrit tout un texte, je vais à moitié le lire, à moitié improviser, à moitié donner mon avis. Un tiers, un tiers, un tiers, quoi. Et donc, laissez-moi vous raconter la petite histoire du jugement de Paris de 1976. Donc ça remonte un petit peu maintenant, hein, ça fait 50 ans. 50 ans que c'est arrivé. Et je suppose que ce jugement de Paris, vous n'en avez jamais entendu parler. Parce que c'est pas à l'avantage de la France, c'est même nettement à son désavantage, et que la presse française s'est bien gardée d'en faire la une de ses journaux, que ce soit à l'époque ou aujourd'hui. Je bois une petite gorgée d'eau parce que j'ai relu tout le texte à voix haute juste avant, et donc j'ai la gorge desséchée. En plus, il fait 30 degrés, c'est abominable. Alors, nous sommes partis pour le jugement de Paris de 1976. Imaginez, on est en 1976 à Paris. Dans une pièce feutrée d'un hôtel particulier, une poignée d'experts français du vin s'apprête à déguster à l'aveugle une série de grands crus. Il y a des Bordeaux, des Bourgognes, bien évidemment, et quelques bouteilles venues de Californie. Voici l'objet de la dégustation. C'est donc un affrontement entre Goliath, qui est représenté par la noblesse, l'aristocratie viticole française, qui domine clairement le monde depuis des siècles sur le vin, contre David, incarné par des petites maisons de vins du Nouveau Monde, les vins de Californie. Alors, honnêtement, personne s'en inquiète. C'est un peu comme inviter je sais pas moi, un groupe de rock amateur avec des instruments pas accordés à jouer devant Mozart. La défaite de la Californie, elle est assurée. Ce duel, il était si peu intéressant que les journalistes français, ils ont même pas fait le déplacement, alors qu'ils étaient invités à y assister. Ils préféraient rester au Festival de Cannes pour regarder le film Taxi Driver, qui remportait cette année-là la Palme d'Or. Très bon film, je vous conseille de le regarder avec Robert De Niro. En réalité, il y a un seul journaliste qui a fait le déplacement, c'est George Tabor du Time. Donc même pas français. Et pourtant, honnêtement, ce jour-là, la hiérarchie mondiale du vin, elle a complètement basculé. Bienvenue dans l'histoire du jugement de Paris de 1976. Alors un peu de contexte. En 1976, le monde du vin est dominé sans partage par l'Europe, et en particulier par la France. Bordeaux et Bourgogne y règnent en maître sur les palais et dans les esprits. Des dégustateurs et des amateurs. C'est important de comprendre qu'ils règnent dans les esprits. Vous allez voir pourquoi. Ils écrasent littéralement la concurrence. Les régions françaises qui produisent du vin, leur vin s'arrache aux enchères, vieillissent en cave comme des trésors, sont très recherchés, et ils dictent les codes du bon goût œnologique. C'est-à-dire qu'ils sont tellement des références que si vous buvez des vins qui n'ont pas un style similaire aux vins français, c'est considéré comme des mauvais vins. Les autres pays viticoles à côté, bah, ils font vraiment enfin, ils ont vraiment l'air de figurants, ils sont vus comme des figurants, comme de l'exotisme, de l'exploration gustative. parce qu'ils ne sont pas alignés sur la référence française. Si on veut se prétendre expert dans le vin, c'est vraiment en France qu'il faut se trouver en 1976. Alors la France, elle est fière de son terroir, on l'est toujours aujourd'hui d'ailleurs, et il faut comprendre que le mot terroir est un mot quasi intraduisible dans les autres langues. Il désigne à la fois le sol, le climat, l'exposition et tout un art de vivre centré sur ces mots précédents. Le vin français est perçu comme un produit, un héritage séculaire, un savoir-faire quasi mystique. Il n'est pas simplement bon, il est culturel, national et sacré. Il l'est encore aujourd'hui, sachant que depuis 1976, la consommation, on l'a vu dans les podcasts précédents, a dû être divisée par au moins 5. Alors imaginez à l'époque. Les dégustations, à l'époque, elles se font avec les étiquettes visibles. C'est pour ça que je vous dis que c'est important de retenir que les vins français règnent en maître dans les esprits. Une dégustation avec une étiquette visible, ça fait que certes on goûte, mais on goûte en sachant ce qu'on boit. Si on voit Château Lafite ou Meursault premier cru, on s'incline déjà devant le verre. Peu importe ce que ça goûtera, notre cerveau est influencé. Le vin français règne en maître sur les esprits. On voit l'étiquette, c'est connu comme étant bon, c'est une référence, alors à la dégustation, il y a plus de chances que l'on juge ça comme excellent. A l'inverse, les vins qui n'ont pas les bonnes étiquettes, par préjugé, seront attribués comme étant des vins moyens, voire des mauvais vins. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, plus précisément en Californie, une nouvelle génération de vignerons, elle ose croire qu'il est possible de faire du grand vin, sans avoir des ancêtres vignerons et sans terroir sacré. Dans la Napa Valley, quelques domaines expérimentent, ils plantent, goûtent, ils tâtonnent. Mais alors pourquoi précisément dans la Napa Valley ? Il s'avère que la Napa Valley se situe au nord de San Francisco, en Californie, à environ 1h30 de route de la baie, la baie de San Francisco. Elle tire son nom des Amérindiens Wapo, pour qui Napa signifiait probablement « terre abondante ». Le climat là-bas est méditerranéen, avec des étés qui sont chauds et secs, et des nuits fraîches, grâce à l'influence océanique, puisque c'est à côté de la baie de San Francisco. On a une topographie qui est vallonnée et qui offre de grandes diversités de microclimats. Autrement dit, c'est un véritable paradis pour faire du vin. Alors on y trouve une grande variété de sols, notamment des sols volcaniques ou argilo-calcaires, ce qui permet de la plantation de nombreux cépages, et notamment des cépages stars français, comme le Cabernet Sauvignon, le Chardonnay, le Pinot Noir ou le Merlot. La viticulture, elle se développe donc dans la Napa Valley dès le milieu du 19e siècle, ce qui fait quand même presque 200 ans, avec des pionniers comme Charles Krug et Agoston Aradzi, qui est un Hongrois un peu excentrique, visiblement, et c'est lui qui a importé ces cépages européens. Mais c'est véritablement au milieu des années 60-70 que la région amorce son virage qualitatif, grâce à des vignerons qui veulent se mettre à rivaliser avec les plus grands crus du monde. Ils misent sur de la rigueur, sur de l'expérimentation et sur une certaine irrévérence vis-à-vis de la tradition européenne. Bref, la Napa Valley à cette époque, c'est un peu comme le garage de la Silicon Valley pour les boîtes de la tech. Peu de moyens, beaucoup de passion, et une envie furieuse de prouver que tout est possible. Ce sont clairement des outsiders passionnés, mais ils ne sont pas pris au sérieux par les critiques européens, ni par les Français eux-mêmes. D'ailleurs, c'est limite si on sait qu'ils existent. Le fossé il est donc immense, vous le comprenez. D'un côté, on a une tradition millénaire, l'aristocratie viticole française, et de l'autre, on a une bande de jeunes Américains enthousiastes et idéalistes, qui peuvent être même parfois perçus un peu comme des hippies. C'est précisément ce fossé que le jugement de Paris va mettre à nu. Alors, qui sont les acteurs de cet événement ? Alors, l'acteur principal, la personne autour de qui tout va s'articuler, c'est l'organisateur du jugement de Paris. Okay, le jugement de Paris ne s'appelait pas comme ça, en fait, c'est avant. C'est l'organisateur de la dégustation à l'aveugle. C'est un Britannique, un satané anglais, Stephen Spurrier, qui est propriétaire d'une cave à vin à Paris à l'époque. Alors lui, il adore la France, il adore le vin, il y a une cave à vin, donc tant qu'à faire, vaut mieux aimer le vin, et surtout, il adore les vins californiens. Il veut organiser une dégustation à l'aveugle entre vins français et des vins californiens, juste pour voir ce que ça donne. Il invite les juges français de renom, spécialistes, œnologues, critiques, qui viennent de différents univers. Et vous allez voir, c'est des juges qui sont très sérieux. Personne ne doute de l'issue du match, hein, honnêtement. Les Californiens seront humiliés, poliment, comme il se doit. Avec l'aide de sa collaboratrice Patricia Gallagher, américaine et tout aussi fascinée par la qualité émergente des vins américains, il organise l'événement avec sérieux, mais sans imaginer une seconde que cette petite dégustation à l'aveugle rentrerait dans l'histoire. Alors je vous présente quelques juges qui seront présents à cet événement, qui sont des juges français. Donc, pour sa dégustation, Spurrier, il a convoqué, pas des amateurs, hein, il a vraiment pris des experts, puisqu'il fait appel à l'élite du vin français. Première personne, c'est Pierre Bréjoux, inspecteur général de l'INAO, Institut National des Appellations d'Origine. C'est vraiment une sommité, ça qu'il faut comprendre. C'est sûrement la personne la plus influente dans le monde du vin en France à cette époque. Donc, c'est une véritable pointure. Deuxième personne, Odette Kahn, une femme, directrice de la Revue du Vin de France, qui est une publication ultra influente et très traditionnelle à l'époque. Il y a aussi Raymond Olivier, chef étoilé du Grand Véfour, un pilier de la gastronomie parisienne qui existe encore aujourd'hui d'ailleurs. Jean-Claude Vrina, patron du restaurant Taïwan, l'un des plus grands temples du vin à Paris, qui existe toujours aujourd'hui d'ailleurs. Christian Vanke, un prometteur, sommelier de la Tour d'Argent, qui existe elle aussi, toujours aujourd'hui. Après, il y a quelques autres experts, critiques et négociants, dont les noms sont moins importants que ceux-là. Spurrier, l'organisateur, lui, par contre, il ne participe pas au vote, hein, puisqu'il ne veut pas fausser le résultat. Une rigueur qui est quand même assez étonnante pour un événement qu'il faut comprendre, hein, vraiment, se voulait à l'origine comme un simple petit test. C'est une petite dégustation entre aristocrates du vin, qui sont venus humilier des vins californiens, clairement, en disant qu'est-ce que c'est que ces merdes que l'on boit là, et au passage, boire les plus grands vins français. Les vins du côté français, il y a Château Mouton Rothschild, Aubryon, des morceaux grands crus, que des monuments. Côté californien, que des noms inconnus, Stag's Leap, Château Montelena, Freemark Abbey, des vins qui sont véritablement inconnus du grand public européen à cette époque, il faut le comprendre, si ce n'est même inconnus de ceux qui vont les déguster. Spurrier, pour la dégustation, il a sélectionné 10 vins blancs, que des chardonnays, 10 vins rouges, principalement des cépages Cabernet Sauvignon. Puis, il fait tout déguster à l'aveugle. Alors, pour la dégustation, il y a aussi une autre personne un peu particulière qu'il faut quand même mentionner, il y avait Aubert de Villene. Alors, Monsieur de Villene, c'est le co-gérant du légendaire Domaine de la Romanée-Conti. Si vous ne savez pas ce que c'est Domaine de la Romanée-Conti, j'en ai parlé dans un podcast précédent. Alors lui, il fut brièvement impliqué dans la dégustation, puisqu'il a goûté certains vins lors de l'événement. Par contre, il a choisi de se retirer, il est parti avant la publication des résultats, parce qu'il avait peur d'apparaître comme porte-à-faux si les vins californiens surpassaient les crus français. Le fait qu'il se soit barré, ça illustre bien quand même la sensibilité du moment, et on ne sait pas vraiment ce que lui a préféré. Alors nous voici le jour J, le 24 mai 1976. Donc dans le cadre feutré de l'hôtel intercontinental à Paris, la table est dressée. Elle ne contient pas de décoration, mais seulement des bouteilles anonymes. Pour les anonymiser, elles sont recouvertes d'une chaussette, pour qu'on ne puisse pas identifier que ce soit les étiquettes, ni les formes des bouteilles, puisqu'il faut savoir qu'une bouteille de Bordeaux n'est pas la même forme qu'une bouteille de Bourgogne, par exemple. Si vous reconnaissez à travers la chaussette sa forme, ça vous influence déjà. C'est bien important de comprendre le phénomène d'anonymisation, puisque seul le goût va compter. Alors, dit blanc, dit rouge, comme on l'a dit, les juges ne savent rien, puisque tout est anonyme, ni l'origine de la bouteille, ni son cépage, ni son éventuel prestige. Steven Spurrier supervise, il est discret. Patricia Gallagher, son assistante, distribue les fiches de notation, sur lesquels les juges vont pouvoir marquer leurs annotations, leurs remarques, et enfin leurs notes. Georges Taber, lui, le seul journaliste présent, il s'installe dans un coin avec son carnet, il prend des notes, il observe. Et honnêtement, dans ses notes, il juge que quelque chose d'inhabituel se déroule sous ses yeux. Il le sent. Spurrier, l'organisateur, il a été malin. Vous allez comprendre. Parce qu'il est parti lui-même en Californie sélectionner les vins de la compétition. Il a volontairement pris des vins qui ressemblent aux vins français sélectionnés pour cette même compétition. Il a aussi, il faut le dire, sélectionné des vins de très haute qualité. Puisque même si ça ressemble, il faut que ça soit le même niveau. Alors les juges, eux, commencent à comprendre ce qui se trame. Ils sont confus et ils cherchent surtout à trouver où se cachent les vins californiens, les identifier pour pouvoir les saquer. Mais ils ne parviennent pas à les détecter. Les juges prennent leur travail au sérieux. Chaque vin est noté sur 20 selon les critères classiques. Donc on note la robe, c'est-à-dire son apparence, son nez, sa bouche, son équilibre et sa longueur. La longueur qui est d'ailleurs un signe très, très révélateur de la qualité d'un alcool. Plus il reste longtemps en bouche, plus il est significatif de qualité. Les juges crachent dans des seaux en argent, ils prennent des notes et ils commencent à murmurer. Alors ce qui est marrant, c'est que c'est une dégustation à l'aveugle, mais les juges se parlent, ou ils parlent tout seuls. Il y a quelques commentaires qui commencent à fuser et le journaliste les a pris en note. « Ah, voilà un grand morceau !» dit Odette Kahn, la célèbre directrice de la Revue du Vin de France, enivrée par un chardonnay vibrant. Il s'agissait de Château Montelena, un vin californien. « Très élégant, belle longueur, on sent la noblesse du terroir !» ajoute Raymond Olivier, chef du Grand Véfour, en parlant d'un autre blanc californien. Ce rouge me rappelle un très beau Pauillac, glisse Pierre Bréjoux à propos d'un cabernet de Stag's Leap Wine Cellars. Le piège, vous le comprenez, fonctionne à merveille. Les juges encensent les vins californiens en croyant juger des vins français. Une phrase restée célèbre, qui est la plus révélatrice de toutes, attribuée à un juge qu'ils ont volontairement voulu rester anonyme, résonne vraiment comme le résumé de la journée. « Ce vin ne sent rien, c'est sûrement un vin californien, en parlant d'un vin de Bourgogne. » À la fin de la dégustation, Spurrier collecte toutes les fiches, il additionne les notes, et là, voilà le verdict. « Vin blanc le mieux noté de la journée, Château Montelena 1973, Californie. Vin rouge le mieux noté de la journée, Stag's Leap Wine Cellars, 1973, Californie. » Là, le choc, il est immédiat. Les juges y sont d'abord incrédules, puis vraiment embarrassés. Odette Kahn, elle demande à récupérer ses fiches, et certains juges tentent de nuancer. « Il faudrait recommencer dans 10 ans, voir comment ils vieillissent, tente l'un. » « Les conditions n'étaient peut-être pas idéales, » murmure un autre. « Mais il est trop tard. » Le coup porté à la France par la Californie est colossal. Les conséquences vont être pharaoniques. Alors George Tabor griffonne son titre sur son carnet et c'est là que ressort le célèbre nom de « Judgment of Paris ». L'expression restera bien évidemment dans l'histoire comme « le jugement de Paris » en français. À la sortie, George Tabor, donc, il publie son article dans le Time Magazine, The Judgment of Paris. Aux États-Unis, c'est un véritable triomphe. Les vins californiens, eux, sont encensés. Leurs domaines y reçoivent une attention médiatique et commerciale inédite. Et les vins californiens, ils explosent, tant sur le marché national qu'à l'export, puisque la dégustation a été faite en France. Donc, c'est vraiment un retentissement international. La Napa Valley, elle devient donc une véritable marque en soi et une référence mondial. En France, par contre, c'est silence radio. Les juges, eux, ils sont gênés, ils tentent de minimiser leur rôle et de dire que limite, ils n'étaient pas là. Odette Kahn, qui a demandé à récupérer ses fiches furieuses, ne les a pas eues. L'organisateur ne lui a pas rendu. Alors, certains affirment que la dégustation était biaisée, que les bouteilles françaises n'étaient pas à leur apogée. Bref, c'est un petit peu la panique dans les cercles œnologiques parisiens. Mais au-delà de l'embarras, c'est toute une profession qui se trouve remise en question.
Bah oui, pour la première fois depuis des siècles, les vignerons français, ils doivent bien admettre que la qualité peut exister ailleurs. Cette prise de conscience, elle va pousser certains domaines à revoir leurs pratiques, à se moderniser et à accepter que le prestige du nom ne suffit plus. Il faut aussi l'excellence constante du goût. Le jugement de Paris, The Judgment of Paris, ça déclenche aussi une révolution dans les mentalités, puisqu'il impose la fameuse dégustation à l'aveugle comme méthode fiable et débarrassée des biais culturels. Fini l'époque où on déguste avec le nom sur l'étiquette et l'influence dans le jugement. Mais pour aller plus loin, et voir si cela n'était pas un coup de chance, comme certains critiques ont pu le dire après la révélation des classements, des nouvelles dégustations sont organisées. Alors 10 ans plus tard, en 1986, une première redégustation est organisée, cette fois aux États-Unis, mais avec des juges internationaux venus de nombreux pays. Surprise, les vins californiens gagnent à nouveau. Ils ont bien vieilli, et parfois mieux que les Français. Le mythe de la supériorité du vieillissement européen prend donc lui aussi un coup. Mais le pire, c'est en 2006. 30 ans pile après l'affaire du jugement, ça prend une tournure irréversible. Deux dégustations simultanées, en même temps, ont lieu. Une à Londres et une dans la Napa Valley, aux États-Unis. Résultat, pour les rouges du moins, Stag's Leap l'emporte encore 30 ans plus tard. Le message est clair, ce n'était pas un coup de chance. Alors comme on l'a dit, le jugement de Paris, c'est des conséquences qui sont énormes. Les vins du Nouveau Monde, de la Californie donc, gagnent en légitimité. La Californie, elle devient une destination viticole très sérieuse. Le modèle du terroir français perd sa domination exclusive. Ça ne veut pas dire qu'il perd sa domination, mais sa domination exclusive et sans partage. Et les dégustations à l'aveugle deviennent la norme pour éviter les biais culturels et de prestige. Je ne comprends pas que ça ne l'était pas avant, d'ailleurs, parce que la dégustation à l'aveugle, c'est quand même la seule manière de juger de la qualité de quelque chose. Parce qu'il faut savoir que l'œil influence vraiment énormément. Si vous savez ce que vous buvez, vous ne le jugerez jamais pareil. Vous devez essayer des dégustations à l'aveugle et vous verrez à quel point vous serez dérouté. C'est difficile même d'identifier des alcools les uns des autres, en tout cas pour les spiritueux. Alors, si jamais l'événement vous intéresse et que vous voulez en voir un petit peu plus, il a inspiré un film, j'ai vu, Bottle Shock, en 2008. Alors, il est bien romancé et même un peu faux historiquement, hein, mais il donne une idée, en tout cas, du choc culturel des événements que cet événement a représenté. Et c'est aussi une leçon d'humilité, puisque les juges qui étaient qualifiés du monde, enfin les juges les plus qualifiés du monde, ils se sont laissés piéger par leurs préjugés, puisqu'ils cherchaient, eux, ils cherchaient à trouver absolument les vins californiens pour les défoncer. Et ils ont perdu leur concentration et la neutralité de leur jugement par un excès de zèle. Ils se sont fait berner et ils se sont retrouvés à saquer des vins français, du coup. La conclusion, c'est que le jugement de Paris, c'est pas qu'un concours gagné par les Américains, mais c'est vraiment un moment où la carte mondiale, enfin la carte du vin mondial, a été redessinée. Puisque c'est aussi une histoire de goût, de subjectivité et d'ego. De revanche, puisque la France a perdu son hégémonie exclusive et les amateurs ont pu se dire qu'il y avait aussi du très bon ailleurs. Mais bon, depuis la France, elle a quand même repris sa place de numéro 1, mais bon, le monopole est toujours mort ce jour-là, puisqu'on boit désormais des vins venus du monde entier. Et tout ça, il faut le rappeler, à cause d'un Anglais curieux, et une poignée de bouteilles qu'il a bien sélectionnées. Et aussi, il faut le dire, à cause d'un jury qui croyait tout savoir. Dans le vin comme dans la vie, ne vous fiez jamais à l'étiquette et à ces satanés anglais. Bon, on est arrivé au bout de l'histoire du jugement de Paris. J'espère que ce petit format, ça vous plaît. pour donner un petit peu des commentaires, c'est vrai que cette histoire m'a fait marrer parce que moi, je suis un grand défenseur de la dégustation à l'aveugle. Si vous écoutez ces podcasts depuis quelque temps, vous savez que j'en ai parlé plusieurs fois. Il y a un espèce de snobisme dans le milieu de l'alcool, mais c'est vrai que ça se retrouve surtout dans le milieu du vin, autour des noms, des châteaux. Ils sont reconnus comme étant depuis des dizaines d'années, voire des siècles pour certains, comme les meilleurs vins du monde. Alors c'est certainement qu'il y a un petit peu de vrai hein, aussi, ce sont des vins de très haute qualité, mais ça ne veut pas dire que ce sont les meilleurs vins du monde. Ce n'est pas parce qu'un objet est cher et rare qu'il est forcément le meilleur. Il existe aussi des vins en rapport qualité-prix, ou ne serait-ce qu'en qualité tout court, qui leur font concurrence, voire les dominent. Le problème de ces vins à réputation, c'est que si vous êtes dans le microcosme du vin, ou même des spiritueux, mais surtout du vin, et que vous dites « non, je trouve que ce vin est inférieur à celui-ci », et que vous critiquez un domaine reconnu mondialement comme étant excellent, vous allez passer pour un con, des gens vont dire « ah, t'y connais rien, parce que t'as pas de palais, blablabla ». Ils préféreront, je pense, en tout cas moi c'est mon avis, vous critiquer que d'assumer que vous avez raison, parce qu'il y a des institutions auxquelles on n'a pas le droit de toucher. C'est comme ça, elles font référence et vous n'avez pas le droit d'y toucher. Voilà, moi, je trouve ça stupide. L'avantage des dégustations à l'aveugle, c'est qu'on va vous faire goûter des vins qui sont peut-être des grands vins et des vins qui ne sont pas forcément très connus ou qui ont une petite réputation dans le milieu, mais qui ne sont pas reconnus comme étant des monstres sacrés du vin. Et alors là, vous vous êtes perdu parce que si vous goûtez un vin qui a cette réputation d'être un monstre sacré et que vous le défoncez à la dégustation à l'aveugle, là, c'est trop tard. C'est vos sens qui ont parlé pour vous. Et il suffit que tout le monde soit un petit peu unanime, et le grand vin, il ne reste que son prix et sa rareté et sa réputation pour le garder, parce que vous avez mieux noté d'autres vins. Et c'est quand même assez rare que ça soit toujours les plus chers qui gagnent. Honnêtement, moi, j'ai déjà fait des dégustations à l'aveugle de spiritueux. C'est tellement perturbant, tellement compliqué qu'on s'y perd et on se retrouve parfois... Le plus marrant, c'est qu'on se retrouve parfois à se déjuger soi-même. C'est-à-dire que moi, je vais dire, moi, mes whiskies préférés, c'est des whiskies qui viennent de tel endroit, qui sont comme ci, comme ça. Tu fais une dégustation à l'aveugle et ceux que tu as le moins bien notés, c'est ceux que tu disais préférés. Voilà, ça peut arriver, honnêtement. Bon, au bout d'un moment, à force de faire des dégustations à l'aveugle, tu commences quand même par mieux te repérer, mais ça faut garder à l'esprit que ça peut arriver. Parce que c'est un exercice qui est extrêmement compliqué et en plus qui est très drôle. Franchement, vous faites ça avec des amis, si vous aimez bien boire un coup et tout, vous dites... Honnêtement, vous faites ça. Si vous aimez bien boire des coups, vous avez quelques jolies bouteilles, pas forcément besoin d'avoir des bouteilles de ouf, je le répète. Vous prenez une bouteille, vous mettez une chaussette autour... et chacun votre tour, vous servez votre bouteille à vos amis. Vous servez un verre à tout le monde, sauf à vous, parce que vous savez ce que c'est. Et chacun prend des notes, essaye de deviner ce que c'est, lui met une note s'il veut, et etc. Donc si vous êtes 6, ça fait 5 bouteilles à déguster chacun. Puis une fois que vous avez tout dégusté, vous en parlez, et vous allez voir s'ils l'ont trouvé ou quoi. Et vous verrez à quel point c'est perturbant. Une fois que vous n'avez plus l'œil sur l'étiquette, c'est extrêmement difficile. Parce que non seulement vous avez la pression de dire que c'est de la merde, parce que c'est quand même... vous ne savez pas ce que vous allez boire. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de tacler. Et ça se trouve, par les préjugés, les réputations et tout, vous dites « Putain, il ne faut pas que je tacle un truc intaclable. » Vous voyez ? Et d'un autre côté... vous avez quand même envie de dire la vérité parce que si les autres ils le taclent, vous avez passé pour un con. Donc c'est vraiment un exercice qui est à la fois difficile pour les sens mais difficile pour l'esprit. Et c'est très rigolo, donc je vous conseille de le faire en groupe. Bon, il faut une bande de potes qui aiment ça et qui a quand même au moins chacun une bouteille un peu cool à faire déguster. Puis en plus, vous avez envie de les piéger, donc vous ramenez un truc un peu bizarre. Enfin bref, c'est rigolo. Le but, c'est pas de ramener un truc dégueulasse, mais un peu bizarre. Ce que je veux dire, c'est que un alcool qui a des marqueurs particuliers, qui va les dérouter, ou qui est à cheval entre deux mondes. Du coup, ils vont se dire, putain, je ne sais pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est un japonais? Est-ce que c'est un écossais? Putain, je suis perdu. Enfin voilà, bref, vous m'avez compris, quoi. Donc écoutez, je trouvais que cette histoire mettait parfaitement en lumière ce phénomène de la dégustation à l'aveugle. Et ça m'a bien fait rire que des juges réputés de l'aristocratie, des pontes du milieu du vin, se soient fait berner comme des cons par un petit Anglais qui a été chercher des vins californiens et qui t'a dégommé les domaines les plus réputés de l'époque, et qui sont d'ailleurs toujours très réputés aujourd'hui, avec des domaines qui étaient quasiment inconnus. Et en plus, ça fait la réputation d'une nouvelle région et probablement la fortune de certains. Donc c'était une très très belle anecdote, et ça illustre bien ce que je pense et mes propos. Voilà. Bon, écoutez les amis, moi, je ne vends ni vin français ni vin californien sur demichelot.com, mais bel et bien des spiritueux français artisanaux faits par moi et d'autres, par des petits producteurs. D'ailleurs, si vous voulez organiser vos soirées de dégustation à l'aveugle, il y a suffisamment de bouteilles pour que vous en achetiez une différente sur demichelot.com et que vous fassiez votre petite dégustation entre vous. Demichelot.com, pour me soutenir et soutenir cette chaîne et mes futurs lives, n'hésitez pas à aller y faire un tour. demichelot.com. Merci de m'avoir écouté, et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.